Bonjour, bienvenue à Nebulosa, le podcast ou balado en français, où on parle de science, plus précisément la biologie à l'UQAR. Aujourd'hui, je reçois un invité qui travaille pour sa maîtrise dans le laboratoire de Dominique Berthaud. Donc, c'est un chercheur qui fait beaucoup de choses dans le Grand Nord. Bonjour Louis-Pierre.
Salut, enchanté, ça va bien?
Ça va bien et toi?
Oui, super bien. Un peu dans la roche de l'école en ce moment, mais on aime ça pareil, fait que...
Tu travailles beaucoup sur ta maîtrise en ce moment, là?
Ouais, beaucoup, beaucoup d'analyses à faire, beaucoup d'exploration, c'est-à-dire sur ce que les renards, nos petits renards de l'Arctique font.
Les beaux petits mammifères.
Les beaux petits mammifères, en effet. Puis pour présenter un petit peu mon projet, ben comme Florent m'a si bien présenté, j'étais un étudiant à la maîtrise qui travaille entre autres sur l'écologie du mouvement du renard arctique. Puis plus précisément, je m'attaque aux déplacements que les renards vont faire au sein de leur domaine vitaux, c'est-à-dire l'espace où ils vont occuper la majorité de leur temps, qu'ils vont faire la majorité de leur activité quotidienne, que ce soit se reproduire ou chercher la nourriture. Et plus particulièrement encore, c'est assez niché, je m'occupe, en fait je m'attarde beaucoup aux distances qu'ils vont parcourir au quotidien. Puis d'essayer de trouver, bon, qu'est-ce qui pourrait expliquer les distances qu'ils parcourent dans le temps, ou encore tout dépendant du lieu spatial où ils se trouvent. Ou encore d'autres facteurs comme est-ce que t'es un mâle, tu parcours des plus grandes distances, est-ce que t'es une femelle, t'es plus ancré à la tanière, des choses comme ça. Fait que c'est super palpitant, c'est super intéressant, mais ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, puis de brainstorm derrière, puis d'exploration, comme j'ai mentionné au début. C'est un travail assez stimulant, mettons.
Si ça te va, on peut peut-être regarder un peu ton parcours avant d'arriver à la maîtrise.
Écoute, comme bien des jeunes, je me suis cherché longtemps. puis avant même d'être un biologiste, j'étais un joueur de football avant tout. Puis toute ma jeunesse, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, l'environnement de l'esprit sportif, le sport de compétition, ces choses-là.
C'est quelque chose qui t'aurait intéressé de poursuivre là-dedans puis d'essayer de devenir, je sais pas, joueur de football professionnel?
Ben, ça a été un rêve au moment. Dans ma jeunesse, ça a été vraiment ce qui m'a poussé à aller loin. Mais rendu à un certain niveau, j'avais plus la même motivation, j'avais plus les mêmes objectifs non plus. Puis à un moment donné, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? Puis ça devient quelque chose qui est beaucoup plus ancré en nous, je dirais. Fait que j'ai joué au Rouge et Or pendant 2 ans à l'Université Laval. Et j'étais au baccalauréat en génie civil. Fait que tu peux voir, le lien, il n'est pas là du tout. Mais j'ai fait le déclic là, à un certain point, en même temps de me poser des questions sur ma carrière de footballeur. J'aimais vraiment pas ça, en fait. Là. Comment dire plus simple que ça? J'apprenais comment poser de l'asphalte puis du bitume. Puis moi, j'étais un gars qui était le plus nerd de la gang, qui regardait une mouette Bonaparte passer au-dessus du stade de TELUS, puis qui disait « Hey, man, il y a une mouette Bonaparte! » Puis mes collègues étaient là « Voyons donc, lâche les goélands, tu sais, de quoi du genre. » Fait que je te dirais que ouais, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai vu quelqu'un en orientation, puis la question était aussi simple de « Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? » C'était bien simplement regarder des animaux, puis depuis que je suis petit, je fais ça, là, je pogne des insectes, des salamandres, puis je pense qu'on a toute une petite phase comme ça, mais moi, dis-toi que j'étais le maniaque de la gang qui vidait sa boîte à lunch pour aller chercher des crapauds dans le bois, tu sais, au camp de jour. Fait que moi, je te dirais que tranquillement, ça s'est venu vers là, puis j'ai fait un switch carrément, là, d'une année à une autre, là, quand j'ai commencé la biologie, j'ai arrêté le football en même temps, puis ça m'a vraiment permis de me concentrer sur mes études, en fait, puis c'était la plus belle des choses parce que je combinais, c'est la première fois de ma vie que je trouvais ma place en me disant, crime, j'étudie de quoi que j'aime vraiment, puis des questions que j'aime vraiment, comme l'écologie comportementale chez les animaux, des choses comme ça. Fait que, non, c'est ça, ça m'a permis vraiment de m'épanouir, je dirais, là, au travers du bac. Puis je me suis mis à commencer à faire de la photo à peu près dans le même temps, de la photo d'animaux, fait que c'était très complémentaire, puis une passion stimulait l'autre, je dirais, puis je devenais un peu maniaque, là.
Mais c'est ça, parce que tu fais aussi de la photographie dans ton temps libre.
Ouais, c'est ça, quand je trouve le temps, justement, là, c'est de quoi que j'aimerais plus faire, entre autres, mais qui demande beaucoup de temps.
Ouais.
Mais ouais, je fais beaucoup de photos, ça va faire maintenant 5 ans que j'ai un Kodak dans les mains, puis que je m'amuse à courir après des animaux dans la forêt, je dirais, là, pour...
c'est assez beau, les résultats, là, ouais. J'ai vu sur ta page Instagram.
Ouais, merci, merci. Ça fait toujours plaisir d'entendre.
Je mettrai un lien ou quelque chose
ah ouais, avec plaisir
pour
aussi.
Que les gens puissent aller voir. Parce qu'aussi, il y a des photos que tu as prises dans ton terrain de maîtrise aussi.
Oui, ouais, mais ça, je suis assez fier de ça. Là. Justement, parlant un peu plus, ramener à la maîtrise, là, puis faire un petit lien rapide avec la photo. On passe un des aspects les plus gros, je dirais, du projet de maîtrise puis de gérer mon projet, c'est de partir 3 mois chaque été dans le Nord, dans le Haut-Arctique, pour aller poser des colliers à des renards, pour être en mesure d'étudier leur mouvement, ce que je fais en ce moment derrière un ordinateur. Mais tu sais, on se retrouve à être 3 mois en pleine nature sauvage de la toundra, puis entouré de ces animaux-là, tu sais, des renards et tout. Et moi, je traîne tout le temps dans mon sac à dos, il y a tout le temps mon appareil photo, même si ça me pèse 40 livres de plus. J'ai comme le syndrome de fear of missing out, là, tu sais, le syndrome de si je vois un animal, il faut que je sois prêt. Puis ça a pris un bon 3 mois, là, mais j'ai pris de très belles photos de renards sur le long terme. Puis ça m'a amené à gagner un concours de Canadian Geographic cette année. Avec une photo de renard arctique, justement, là, que j'avais pris sur l'île Bilou. Je me souviens encore de la date. 24 juillet, il était minuit 53. Je me promenais dans Toundra, puis il y avait un petit renard qui était bien curieux de me voir, puis j'en ai profité pour faire des photos. Fait que je suis vraiment content d'être ça.
Félicitations pour le prix, puis même pour la photo, c'est incroyable d'avoir ça.
Ouais, c'est souvenir que, outre l'avoir sur papier, puis digital, dans ma tête toute ma vie, là, ce moment-là, fait que c'est comment dire, indétrônable, on va dire ça de même.
Donc si on revient un peu, un petit peu en arrière, t'as fait ton bac en bio après celui de génie civil que t'avais commencé, à l'ULAVAL, puis t'as directement cherché pour la maîtrise après ça.
Ouais, mais je dirais qu'au fil du bac, là, au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que mon côté curieux, puis la recherche, ça fitait très bien ensemble, puis surtout ce qui touche le comportement animal. Fait que rapidement, je me suis mis à regarder des offres de maîtrise là, à droite à gauche, puis d'essayer de combler, de faire un 3 en 1 de 1, une bonne question de recherche, 2, être capable de bouger, aller explorer un peu le monde à travers la biologie, puis 3, ben, bien sûr, comme je viens d'en parler, de faire des photos d'animaux lors des rencontres. Là, fait que j'ai été tombé sur le jackpot, on va dire. Là. On va dire ça de
même. Ouais, vraiment.
mais ouais, très content. Là, puis. C'est ça, la recherche, c'est venu au fil du bac, là, ça a été de plus en plus prenant là, que je voulais faire ça. Là.
Comment t'as fait pour trouver Dominique?
Oh boy! Disons que j'ai fait plusieurs entrevues comme bien étudiant au bac là, pour avoir des postes d'auxiliaire, d'aide de terrain, si on veut. Là. Puis je me souviens, en 2021, j'avais fait une entrevue pour être l'assistant de terrain sur l'île Bilou pour dans l'équipe renard pour capturer des renards. Puis j'ai passé un short là, d'avoir le poste, puis sur le coup, ça m'a déçu. Mais rapidement, j'ai comme repris sur moi, je me suis dit, OK, mais tu sais, si je me suis rendu là, si j'ai la chance de parler à ces gens compétents-là qui sont direct dans mes cordes à moi, ben ça me laisse l'opportunité de prouver qu'est-ce que je suis capable de faire. Fait que là, j'ai resté en contact avec Dominique après ça. Tu sais, des beaux échanges courtois. Merci pour l'opportunité d'entrevue, nanana. Et on a resté en contact, je pense, 2-3 fois le reste du bac, jusqu'à temps que je postule pour une entrevue pour un doc. Moi, je savais que j'avais j'étais pas prêt à faire un doctorat. Là, je finissais mon bac. Mais ça a tombé qu'il m'a pris pour la maîtrise. Fait que j'étais super content. Puis ça s'est fait vraiment vite aussi, là, en l'espace d'une semaine, l'entrevue, puis la réponse, puis prendre une décision, il faut que je bouge à Rimouski, etc., etc. Fait que, tu sais, ça a fait peur sur le coup, là, mais c'était un risque à prendre qui était vraiment, vraiment...
Un beau risque.
Un méchant beau risque, puis je regrette aucunement mon move.
C'est parfait comme ça. Fait que, on peut rentrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. On a fait le tour de ce qui se passait avant. Donc, c'est ça, tu as commencé par aller faire du terrain pendant l'été, dans l'Arctique, à l'île Bilou.
Ouais, j'ai commencé ma maîtrise de même, moi. J'avais pas de projet en tête, rien, pas de questions, c'est rien de défini, puis j'ai demandé à Dominique, je dis bon, comment ça marche mon projet? Il dit, ben, je te pitche dans l'Arctique 3 mois, puis regarde comment ça se passe, puis fais aller ton cerveau de scientifique, essaie de développer ta maturité scientifique à ce niveau-là. Fait que ça a été un gros melting pot, tu sais, de... Entre autres, un, l'adaptation au terrain là-bas, c'était pas évident, mais aussi d'essayer de trouver des idées au travers, tu sais, puis de gérer ma tante aussi, là, ces affaires-là. C'était pas nécessairement évident de tout gérer en même temps. Fait que moi, j'ai été pitché de même, puis je suis bien content de tout ça, là, aussi. Là,
Fait que ce premier été-là, tu faisais pas vraiment ce que tu as fait au final pour ton projet, tu faisais d'autres choses.
Ben, c'était directement en lien avec mon projet, là. Une chose que je savais déjà avant de commencer, c'est que j'allais étudier l'écologie du mouvement du renard. Okay. Donc, inévitablement, il fallait étudier leur comportement de mouvement via la pose de collier. Puis c'était déjà un protocole qui était mis en place depuis 2018, c'était la première année prototype. Et donc, ma première été, ça a été ça. Ça a été carrément de mettre des colliers à des renards, les capturer, faire un suivi de leur état, télécharger les données avec des petites base stations qui connectent avec des ondes rapprochées, fait qu'on n'avait pas le choix d'être proche des renards, puis sans savoir nécessairement ça allait être comment j'allais jouer avec les données après, parce que moi, je jouais avec des données d'accélérométrie, puis ces affaires-là, on nous apprend pas ça au bac, là. Je savais que j'allais jouer un peu avec les données de mouvement, fait que j'avais ça en tête derrière moi qui faisait en sorte que je me posais des questions sur, une panoplie de choses que les renards font durant l'été. Mais ouais, c'était déjà un petit peu défini. Il n'y avait pas de questions claires, mais je savais que j'étudiais l'écologie du mouvement, puis que ça allait se faire au travers des données récoltées sur les colliers qu'on met sur les renards.
Comment vous faisiez pour aller mettre des colliers sur les renards comme ça?
Ben là, il faut être très brillant et très patient. Hein? Les renards sont vraiment rusés, l'expression qu'il dit. Je ne suis pas sûr que j'apprends ça à personne. Mais on met on appelle ça des pièges. Il y a un nom spécial du nom pour le piège, je me souviens plus c'est quoi, mais c'est des pièges à pattes. Qui, je vous rassure, ne sont pas trop invasifs pour les renards. Il y a des rubans en caoutchouc qui permettent simplement de pincer la patte du renard puis de la garder en place lorsqu'on le capture. Puis la partie la plus difficile, je dirais, c'est pas de manipuler le renard, c'est vraiment de poser nos pièges au bon endroit puis d'essayer de se faire une carte cognitive de l'endroit où qu'on est, là, avec une périphérie du camp, c'est tel milieu, un milieu humide là, un milieu mésique là. On sait que les renards aiment les courbes en neige, ils aiment se suivre la fonte de la neige parce que c'est des nouvelles pages de territoire qui sont accessibles pour eux à chaque fois qu'ils repassent par là. Fait que c'est assez de jouer avec les caractéristiques du paysage, puis un peu se mettre dans la tête d'un renard pour mettre les pièges au bon endroit. Une fois qu'on a trouvé l'endroit, c'est une chose, il faut trouver la manière de comment on va le mettre. Fait que, t'sais, il y a plusieurs techniques, je n'irai pas en détail, mais de manière générale, on creuse un trou en angle pour orienter le renard vers le trou, puis au fond, on met soit de la bouffe à chat, une canne de thon, de la bouffe qui peut vraiment les attirer. Puis justement, là, c'est ça, là, de trouver la manière où le mettre, puis aussi d'être délicat faut être très méticuleux là, dans la pose du piège, parce que faut mettre un petit tapis de sable pour pas que le renard soit capable de voir que c'est un piège. Mais moindrement que tu mets un grain de sable de trop, ben ton piège il va se fermer. T'sais. Fait que c'est d'apprendre de jouer avec ça, puis de connaître ta sensibilité de tes pièges, puis
de comprendre le fonctionnement.
C'est ça,
camoufler.
C'est ça, bien camoufler, mettre des repères, mettre des petites roches autour du piège pour être sûr qu'ils pilent là où qu'on veut qu'ils pilent, des choses comme ça, parce qu'ils sont très sensibles des pattes, hein, fait qu'ils aiment ça marcher sur le mou, sur des choses pas trop rocailleuses.
Ils doivent pas être très contents quand ils se font pincer.
Non, ils sont pas très contents, là. Ils sont pas très contents, puis tu sais, ça a beau être un petit prédateur de la grosseur d'un chat, t'sais, c'est des prédateurs, on sait qu'ils sont hautement actifs. Puis je le sais avec mes données maintenant, ils parcourent à peu près une cinquantaine de kilomètres par jour, mais ils sont très nerveux. Là, on arrivait proche, puis faut être très silencieux, faut être rapide aussi en étant délicat pour le moins possible gêner l'animal. Puis le contentionner, là, ça vaut, comme je disais, être la grosseur d'un chat, c'est raide un renard arctique. Fait que, non, c'est un apprentissage en soi de faire tout ça, puis de gager en même temps les conditions environnementales de là-bas, la vie de camp, puis il faut penser à tout, donc non, c'est ça, là, c'était quand même... C'est palpitant en soi, là, mais c'est exigeant.
T'as mentionné que la distance, t'as dit un résultat, une cinquantaine de kilomètres par jour. C'est ouais. énorme.
Ouais, c'est fou. Puis ça, là, c'est 50 km par jour en moyenne quand on regarde des données qui ont une fréquence de localisation de 4 minutes. Fait que, comment expliquer ça simplement? C'est, on a un point à toutes les 4 minutes. Fait que le renard, il se promène, pouf, on a un point. 4 minutes plus tard, on a un autre point. Puis nous, qu'est-ce qu'on trace? C'est une ligne droite directe entre les deux points. Mm-hmm. Pour connaître, bon, une distance approximative à chaque nouvelle localisation. Puis là, on fait la sommation pour tous les jours, puis ça nous donne une moyenne en fonction des années, etc., etc., etc. Et on sait qu'on a fait des tests avec les colliers, avec des positionnements, au lieu de les avoir aux 4 minutes, on les a aux 30 secondes. Et un résultat, là, c'est pas moi qui a montré ça, mais c'est une étudiante dans le passé qui a montré que les renards, quand on chargeait la fréquence, ils pouvaient parcourir jusqu'à 77,5 km par jour. Ça, c'est sans compter la tortuosité entre les déplacements. Là. Tu sais, comme j'ai dit, on calcule ça, des lignes droites.
C'est une ligne
là.
Droite, mais donc, peut-être quand réalité, c'est point,
c'est ça. En réalité,
il fait du zigzag. Puis,
Exactement. Fait que, tu sais, c'est impressionnant. Puis c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment, j'ai une chance de travailler cet animal-là parce qu'il est phénoménal. Tu sais, il a de l'énergie à revendre. Puis il arrête jamais, il slaque jamais. Il cache des œufs, il pogne des oiseaux. En tout cas, ils sont super rusés. Là. Ils trouvent des stratégies différentes pour acquérir leur bouffe. On le voit durant l'été là, que ça varie aussi. Fait que c'est vraiment une chance de travailler sur cet animal-là. Là, puis de les voir aller sur le terrain aussi. Là.
Dans le fond, ils n'ont pas le choix, j'imagine, de parcourir autant de terrain parce que c'est justement un environnement où c'est plus aride, c'est plus dur de trouver de la nourriture.
C'est ça, c'est pas tout le temps évident de trouver la nourriture pour les renards. T'sais, puis on. Comme la majorité des canidés, là, la stratégie de chasse qu'ils vont utiliser, c'est en fait c'est la recherche active de nourriture. Donc, ils vont maximiser leur probabilité de rencontre avec des proies plus qu'ils vont parcourir des distances. Sur cette base-là, ben regarde, on peut se dire que excuse-moi, man, j'ai loupé ta question. C'est quoi tu disais au début?
Je te disais que ça c'est vu que il n'y a pas tant de nourriture dans ces endroits-là. Ouais.
Là où je m'en allais, en fait, là, c'est que, outre ce que je viens de te mentionner, tu as aussi, d'une année à une autre, là, on suit des... Je sais pas si vous êtes familier, là, je te vous vois. Je sais pas si tu es familier avec les cycles de dynamique des populations. T'sais, l'exemple du lièvre puis du lynx, là, qu'on sait qu'il y a des fluctuations aux 10 ans. C'est un peu la même chose sur l'île Bilot, sauf que tu remplaces des lièvres par des lemmings puis tu raccourcis tes cycles de 10 ans à 3-4 ans. Donc, à tous les 4 ans, tu vas avoir une année qui va être, extrêmement abondante pour les renards en termes de nourriture. Puis les 3 autres années, normalement, c'est relativement flat. Ils n'ont pas grand, nourriture. Fait qu'il faut qu'ils trouvent des manières de récupérer leur nourriture. Il faut qu'ils soient ingénieux. Et sur l'île Bilot, c'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a la plus grande colonie connue de la Grande Oie des Neiges. Et il y a des renards qui ont des domaines vitaux dans cette colonie-là. Fait que, qu'est-ce que ça permet d'avoir? C'est une ressource alternative de nourriture qui sont les œufs puis les oiseaux d'oie. Fait que tu vois durant la période que les oies incubent, là, les renards ils parcourent la colonie comme des dingues puis essaient de trouver des nids qui sont pas occupés pour voler des œufs, aller les cacher plus loin, des choses comme ça. Puis c'est vraiment le fun de voir la différence là, justement des renards qui se trouvent dans la colonie versus les renards qu'on retrouve vraiment plus au nord qui sont à l'extérieur de la colonie. Il y a des différences quand même marquées là, entre les patrons de mouvement et l'utilisation de l'espace de ces deux situations-là spatiales complètement différentes. Fait que c'est intéressant d'aller fouiller là-dedans quand justement tu as été sur le terrain, après tu joues avec des données. Là, fait que...
J'imagine, mais c'est toi qui le sais. Est-ce que les renards qui sont justement dans la colonie d'oies font moins de distance pour trouver de la nourriture parce que c'est plus abondant que ceux qui sont en dehors?
Ben, tu sais, ton étudiant était bonne initialement aussi, là. Moi, c'est ce que je pensais. Mais c'est jamais aussi rose que tu le penses quand tu joues avec des données. Puis, je dirais que de manière générale, les renards à l'intérieur de la colonie parcourent des plus petites distances avec un très gros bémol qui dépend, entre autres, de la disponibilité en nourriture. Comme j'ai dit, d'une année à une autre, ça varie. Et qui dépend de si tu es un reproducteur ou non. Dépend aussi de la densité d'oies que tu vas avoir une année donnée, tu sais. Puis c'est ça qu'en ce moment que j'essaie de venir chercher, de faire du fine-tuning dans mes données, essayer de chercher des paramètres pour enlever de la variance, de la variabilité qu'on n'est pas capable de comprendre encore. Mais de manière générale, là, puis je te dirais que vu que les renards à l'intérieur de la colonie ont des plus petits domaines vitaux, c'est plus dense, il y a quand même une corrélation avec la distance que les renards vont parcourir au quotidien, en lien avec la taille de leur domaine vitaux. Fait que, en moyenne, le domaine vitaux d'un renard dans la colonie, c'est autour de 7 km². C'est très, très approximatif, c'est ce que je te dis en ce moment. Puis à l'extérieur de la colonie, ça tourne plus autour de 20-22 km². Fait que tu vois quand même une bonne différence. Puis les distances à l'intérieur de la colonie sont beaucoup plus tortueuses qu'à l'extérieur de la colonie. Fait que les renards qui ont moins accès à des œufs partout, ils vont plus faire des lignes droites puis aller d'un habitat à un autre. Versus les renards qui ont accès à la colonie, ben là, c'est comme le jackpot. Puis il faut juste passer le plus souvent possible pour essayer de tomber sur des parents qui ne protègent pas leurs œufs, tu sais. Fait que,
c'est de l'exploitation ouais, dans ce spot-là.
C'est ça. Mais ça varie beaucoup, là, comme je te disais. Là, c'est encore un bémol. Là. Une année que tu n'as pas beaucoup d'oies, tu n'as pas beaucoup de lemmings, ben, dans la colonie, normalement, les données se rapprochent beaucoup des renards à l'extérieur de la colonie là, en termes de distance parcourue. Fait que, c'est quand même intéressant. Il y a un mécanisme derrière ça qui est vraiment intéressant, mais c'est d'aller chercher et de creuser pour voir qu'est-ce qui est explicable, qu'est-ce qu'on peut expliquer, qu'est-ce qu'on peut pas expliquer. Tout le beau tralala d'un scientifique, là, le côté moins plaisant, je dirais, mais qui est tout autant important, c'est de se poser des questions sur la puissance de nos données et ces choses-là aussi, qu'est-ce qu'on peut tester ou non. Parce qu'il y a plein de choses là, qu'on peut interpréter plein de choses ou se donner des idées de la biologie derrière, mais si on n'a pas les données, des fois, c'est moins
possible. Tu peux pas prouver ce que tu interprètes.
C'est ça, même s'il y a des tendances, c'est dur de prouver des fois là, avec des résultats robustes statistiques.
Puis avez-vous les données, par exemple, des oies qu'il y a dans la colonie?
Oui, mais on est chanceux sur Bilo parce qu'il y a plusieurs équipes de terrain qui travaillent sur des choses différentes. Puis depuis quand même un bon moment, je pense depuis, je me trompe peut-être, là, mais depuis 1993 qu'on étudie les oies des neiges. Puis depuis 2002 qu'on étudie les renards. Fait qu'on commence à avoir un jeu de données sur le long terme qui est intéressant, tu sais. Puis les données sur les oies, il y a une équipe sur les oies chaque année qui s'occupe de ça, là, qui s'occupe d'aller chercher la densité d'œufs, si tu veux, sur un site donné ou si, sur des transects aléatoires, des choses comme ça. Ça nous donne une idée de la densité, une idée de la date médiane de ponte, excuse-moi, ou la moyenne où les œufs vont éclore. Puis, ouais, c'est ça, fait que c'est assez complet, je dirais. On a même toutes sortes de mondes multidisciplinaires, là, c'est ça qui est le fun aussi. Là. On peut échanger après ça pour des données, puis juste discuter là, sur différents aspects qu'on est moins à l'aise peut-être avec du monde qui ont une meilleure expertise. C'est un peu la beauté d'être sur le terrain aussi avec ces gens-là, d'échanger sur le terrain. Comme ça, tu as la vue terrain, puis tu as aussi la vue après ça quand tu reviens dans le sud sur l'ordinateur, tu peux échanger avec ces gens-là aussi. Là, fait que c'est toujours intéressant.
Parmi les facteurs que tu regardes, est-ce que tu regardes aussi la météo, par exemple?
C'est une très... c'est drôle que tu en parles parce que depuis 2 semaines, je pense que je suis là-dessus un petit peu. pas que je suis directement dans le sujet, mais c'est un paramètre que j'aimerais explorer pour voir s'il y a une influence. Parce que je remarque qu'il y a certaines journées que les renards, de manière générale, pour une même année, vont parcourir des très grandes distances, puis pour une autre journée, ils vont parcourir des plus petites distances. Il n'y a pas d'effet du site à ce moment-là. Fait que, c'est intéressant d'aller se creuser qu'est-ce qui peut causer ces variations-là dans les déplacements quotidiens. Puis la météo, ça a été... c'est une très bonne question que je me pose. Je ne sais pas si ça va être statistiquement intéressant, mais d'aller explorer dans cette voie-là quand même pour venir comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Puis dans le pire des cas, laisser ce paramètre-là de côté, ça c'est intéressant en soi, là.
Ça risque de, même si tu as des tendances, comme tu disais tout à l'heure, tu peux les utiliser pour faire des petites interprétations sans en tirer des énormes conclusions.
Exactement. T'sais, mon article risque de tourner plus vers un très gros bloc d'interprétation puis des résultats assez big picture, j'aurais tendance à dire, là, assez général pour voir les tendances entre les années. Mais ça, c'est autant intéressant dans le sens qu'on peut creuser, on peut creuser sur les choses qui sont derrière là, pour mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Là. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun dans mon projet parce que oui, j'étudie les mouvements des renards et leurs patrons dans le jour puis qu'est-ce qui peut influencer ces déplacements-là. Mais aussi, c'est super important pour les autres espèces sur les bilots, les proies par exemple, les limicoles, c'est un exemple. Les déplacements des renards vont avoir une influence sur le taux de survie des nids, par exemple, des limicoles. Fait que, tu sais, mieux comprendre le renard permet à la fois de mieux comprendre les choix que les micoles vont prendre pour nicher. Des choses comme ça, tu sais. Fait que...
Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi des limicoles.
Un limicole, c'est un oiseau de rivage. Tu sais, le petit pit-pit que vous regardez, c'est quand vous êtes sur le bord de la Gaspésie qui est toujours en train de piquer son nez dans le sable. Puis des fois, son... à l'automne, on peut y voir, sont peut-être 10 000 là, ensemble à s'envoler pour migrer. Là. Ben, ça ressemble à ça, c'est limicole. Ça. C'est un long bec, c'est un oiseau de rivage. Puis gris, blanc, brun, ça, c'est pas mal dans ces taux de couleurs. Là.
C'est parfait comme ça. Une belle description. C'est bien beau tout ça, le terrain, magnifique, l'Arctique, magnifique, mais il y a aussi un lot d'aventures puis de mauvais événements qui peuvent arriver dans ces moments-là. Mm-hmm. Comment tu l'as vécu?
Ben, tu sais, je te dirais que, de manière générale, là, l'image que j'en tire de là, puis là, ça dit pas grand-chose, mais c'est que j'ai extrêmement appris de mon premier arrêté de terrain quand je me suis plongé là-dedans. Mais c'est vraiment pas facile. Là. Comme, ce qui a été le plus difficile, je dirais, c'est les conditions, la neige à la mi-saison. Parce qu'on arrive en mai, puis là, c'est un désert polaire, là, c'est juste de la neige partout. Le paysage, il se décrit entre autres juste par le relief, parce qu'il n'y a pas d'arbres. Fait que tu sais, ça, de un, c'est une espèce de choc, un dépaysagement assez marquant. Puis là, t'arrives, tu te fais dropper en avion au milieu de l'île, qu'il n'y a pas. Excuse-moi mon expression, il n'y a pas un maudit chat, là. Il n'y a personne.
Ouais.
Puis ton seul moyen de déplacement, ben, c'est la motoneige, puis tu sais, à pied, sinon en raquette. Puis ça, j'ai quand même trouvé ça difficile là, dans le contexte où quand on installe des pièges en début de saison, faut marcher puis aller vérifier nos pièges aux 6 heures. Mais quand il y a un pied de neige qui vient de tomber, puis là, tu as tes grosses bottes baffin qui pèsent 2 livres chaque, puis là, faut que tu marches tous tes pièges. À minuit, tu portes à tourner, puis tu reviens à 2h30. Ça a été le bout le plus rough, je dirais. Là. Niveau personnel, conditions terrain, c'est vraiment de s'adapter à ces conditions-là à la mi-saison, début de saison, mi-saison.
C'est pas des conditions faciles, mettons.
Non, c'est pas facile. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut prendre ça un petit peu à la légère, sans le prendre à la légère, là, dans le sens que tu sais c'est passager, tout ça, puis des meilleures journées que d'autres, là, comme dans n'importe quoi. Heureusement, tu sais, on est une équipe de 4 là-bas, là. Puis heureusement, on sait les uns les autres. Puis je sais pas comment Dominique fait là, pour choisir ses étudiants pour que ça clique à chaque fois, là, pour qu'on soit capable de bien s'entendre sur le terrain. Mais tout le monde est maudit que je suis content de partir avec ce monde-là sur le terrain l'été. J'ai confiance. Tout le monde connaît, là, c'est le fun. Notre équipe est quand même construite. Tout le monde connaît ses limites, ses forces. Puis on est capable de patcher ça ensemble pour faire le meilleur travail possible. Puis c'est ça. Ça, c'est une chance qu'on ait cette équipe-là. Là. Qu'on ait plusieurs sur le terrain à soutenir moralement, puis à faire part aussi de nos inquiétudes. Puis...
Ce serait horrible de partir tout seul.
Ah non, non, mais ça se fait pas, je pense.
c'est impossible.
Exact.
Donc une belle équipe, au moins, ça c'est cool.
Oui, oui. C'est comme dans n'importe quoi. C'est sûr que faut que tu sois capable de t'ouvrir à ton équipe aussi, puis que tu apprennes à gager tout le monde là-dedans, mais... Quand cette étape-là est faite, puis tu sais que tout le monde est bienveillant puis de bonne volonté, écoute, ça peut juste bien aller. Puis c'est ton support moral puis ton support aussi de survie là, tes collègues là, fait que en aucun cas tu peux négliger quiconque là. Puis c'est ça. Le but c'est d'être le plus transparent possible là, pour que ça fonctionne. Là.
La communication comme dans plein d'autres affaires.
C'est ça.
C'est
exact.
Un point
c'est
clé.
C'est une clé dans pas mal toutes les sphères de notre vie. Hein. On est des gros singes avec un vocabulaire assez complexe, puis c'est la base de notre société. Fait que, t'sais, je pense que ça s'applique partout, surtout dans des conditions comme ça où tu es vraiment fragile puis vulnérable à l'environnement. Là.
Ça fait du bien d'avoir nos pères, puis quand on est des aides sociaux,
d'avoir
eux autres qui sont là pour nous, pour réconforter.
Ouais.
Là, après ton terrain, tu rentres. Pendant l'automne, l'hiver, printemps, ici.
Ouais, ouais.
Puis là, dans ce moment-là, tu travailles sur tes données, tes statistiques.
Ouais.
Est-ce que pour l'instant, tu as des résultats? Tu arrives à interpréter quelque chose?
Ouais. Ben, ça s'en vient. Là. Ça s'en vient avec des choses qui sont vraiment intéressantes. Puis ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon affiche pour le colloque du Centre d'études nordiques qui est la semaine prochaine. Fait que j'ai comme poussé un peu pour aller chercher mes résultats qui étaient les plus saillants là, pour le moment. Puis je te dirais que comme résultat qui m'intéresse particulièrement ces temps-ci, c'est le patron des distances qui sont parcourues au quotidien, mais au fil de l'été. Comme tantôt, j'ai mentionné brièvement que les oies ont une date médiane de ponte, une date à peu près à chaque année qu'ils vont toutes pondre. Puis il y a une date médiane d'éclosion qui c'est à peu près la même date pour tout le monde, que les oiseaux ils sortent de leur coquille puis ils deviennent des proies mobiles, si je me mets dans la tête d'un renard. Fait que, vous comprendrez que dans un contexte, l'arrivée des œufs, c'est important pour les renards, puis eux, ils ont comme pas le choix de ramasser des œufs pour faire leur cache pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc, dans ce contexte-là, moi, ce que je regarde avec les distances là, en ce moment, c'est que à chaque jour, comment dire ça, à chaque jour qu'on ajoute durant la période d'incubation, la distance est plus grande. Donc, il y a une relation positive entre le jour julien, on va dire, là, la date, et la distance parcourue au quotidien au fil de l'été jusqu'à l'éclosion des œufs. C'est comme s'il y avait une course à ramasser le plus de ressources possible avant de tomber dans une période où que, bon, ces ressources, ces proies-là, n'existent plus, c'est rendu des petits poussins qui courent dans la toundra.
Ils restent disponibles, mais ils sont un peu plus durs à pogner.
C'est ça, exact. C'est pas la même, c'est des proies mobiles versus des proies qui ne bougent pas. Fait que c'est pas la même, exactement la même stratégie que le renard va utiliser. Puis inévitablement, même si je suis pas capable de le prouver, j'ai des fortes intuitions que les patrons de mouvement sont très différents durant la période de post-incubation ou d'élevage des oisons, des oies, versus la période où il y a les œufs au nid. D'après moi, il y a vraiment une grosse différence entre ces deux-là, même si je suis pas capable de le prouver pour le moment.
Est-ce que ça voudrait dire que le renard est conscient de quand est-ce que les œufs éclosent?
Ben, tu sais, là, c'est un piège parce que je me suis dit la même question il y a un an de ça peut-être, mais il faut faire attention pas de se mettre dans la tête des animaux trop, là, tu sais, de mettre des comportements humains ou des émotions humaines là, aux
mais
animaux.
Mais plus comme un comportement intuitif de
l'animal. Ouais, mais je sais pas si tu es un peu familier avec l'image de recherche. T'sais, les prédateurs, des fois, peuvent avoir une image de recherche, mettons un coyote qui mange des perdrix. Mais s'il mange souvent des perdrix, lui, dans sa tête, quand il va chercher la nourriture, il va avoir une image de perdrix. Puis moi, ce que je pense, puis c'est pas... T'sais, on n'est pas là de le prouver, là, mais c'est que les renards, à un certain moment, quand ils commencent à voir les œufs puis les oies, il y a ce déclic-là qui fait ou qu'ils en observent de plus en plus. Donc, leur préférence de proie va changer pour optimiser la récolte d'œufs durant ce 3 semaines-là là, qui est important pour les oies. Fait que moi, je dirais qu'un peu, c'est comme s'il reconnaissait puis il changeait son focus pour les œufs, du moins pour les renards qui sont dans la colonie qui ont accès à ces œufs-là. Mm-hmm. Mais je suis pas prêt à dire qu'ils le font carrément juste pour ça. Là,
t'sais, ouais,
il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. T'sais, si tu as des jeunes à tanière, ben, au début, tu parcours des moins grandes distances peut-être par jour parce que tu es ancré à la tanière, tu dois t'occuper des petits. Puis plus que l'été avance, plus que les jeunes deviennent indépendants et donc plus que les parents peut-être qui parcourent des plus grandes distances. Fait que tu sais, mon interprétation des distances qui augmentent au fil du temps durant l'incubation, ben tu sais, j'ai comme deux réflexions derrière, puis ça peut être l'une ou l'autre, tu sais, puis il n'y a pas moyen de le prouver, puis de toute manière, là, en ce moment, mon but, c'est pas d'interpréter, c'est de sortir des résultats, tu sais, mais ça vous donne un peu une idée de c'est quoi, mettons, réfléchir derrière le projet, puis en comportement animal, quand je disais tantôt que c'était stimulant, même si c'est difficile, ben c'est ça, on est toujours poussé à essayer d'interpréter, à
trouver des nouvelles questions.
C'est ça, exactement, peaufiner nos résultats, assez de chuter, puis c'est un peu ça qui est le fun, mais qui est pas un travail facile à faire non plus.
Parce que justement, ces questions-là pourraient partir sur d'autres projets éventuels,
ouais,
pour d'autres gens aussi.
Non, exact.
Ouais, c'est formidable. donc, là, t'es pas proche de la fin de ta maîtrise. Ça fait 2 ans que t'es dessus?
Ouais, ça va faire 2 ans en avril.
OK.
Puis j'essaie de finir d'ici un an, je dirais, à peu près. Ce qui est assez ambitieux. Mais regarde, me mets pas trop de pression parce que de toute manière, de maîtrise, t'apprends au fur et à mesure. Tu pitches là-dedans, puis t'apprends.
C'est ça, surtout si t'as jamais fait de recherche concrète avant
ça. Ben, c'est ça. C'est un peu difficile. Tu gagnes beaucoup en autonomie, mais tu gagnes en responsabilité aussi, puis en gestion de ton temps. Puis C'est pas nécessairement des facettes là, que j'étais très bon au bac pour faire ce cours, mais tu sais, tout de même, ça va super bien, puis je travaille chaque jour dessus, j'ai du fun à jouer avec ça, même si ça avance pas beaucoup, tu sais. Puis j'essaie de finir pour décembre 2024, je vais toucher du bois.
On croise les doigts pour toi.
Ouais.
On a fait, entre guillemets, le tour de ta maîtrise. Y a-t-il des points que tu voulais apporter de plus?
Vite comme ça, je te dirais que non. On a fait pas mal les points majeurs. Il y a le côté terrain, le côté labo, qui sont deux mondes carrément différents.
Oui.
L'été, tu marches, puis tu dépenses des calories tous les jours. Puis l'hiver, ben, tu gagnes des calories tous les jours. T'es devant ton ordi, tu sais. Mais mis à part ce gros contraste-là, je dirais que c'est pas mal ça. Là. Il y a les challenges des analyses, il y a les challenges du terrain. Puis, ouais, je dirais que ça fait...
Le côté labo, c'est plus le côté ordi. C'est pas,
c'est ça,
c'est pas des échantillons ramenés.
Non, c'est ça. C'est côté ordi. Là. Ce qui se passe, c'est derrière l'analyse des colliers, des données des colliers, ces choses-là. Là. Les beaux graphiques, puis ces choses-là.
Ouais, la construction de graphiques avec l'écriture de texte.
On devient pas pire. Je devrais me réinventer programmeur des fois, je me dis. Avec tout le background que j'apprends dans R, là, je me dis des fois que je pourrais faire ça.
C'est, malgré tout, ça reste quelque chose de stressant pour tout le monde, ça doit l'être. Qu'est-ce que tu fais pour te déstresser? Est-ce que tu as des passe-temps
En
dehors de ça?
Tantôt on a parlé de la photo. Hein? Quand je peux... Quand je me sens pas trop coupable de manquer une journée d'études pour aller prendre la photo, ben je le fais. J'ai la chance d'avoir un chien qui est un couteau à double tranchant quand même, là. Mais j'ai la chance d'avoir un chien qui est, je vais dire, très compréhensif de ma situation. Tantôt, je parlais de pas mettre des émotions aux animaux, là. Mais j'ai un très bon chien, très flexible. Il m'apporte beaucoup là, parce que... je suis tout seul ici à Rimouski, ma blonde est à Québec. Fait que, quand j'arrive de la job, je ne suis pas nécessairement willing d'aller sur le party tout le temps. Fait que j'ai mon chien. Je cours avec, je m'en vais au parc à chien. Je fais de la photo de mon chien quand je vois pas d'animaux.
C'est de la compagnie.
Sinon, des passe-temps classiques comme jouer aux jeux vidéo, là, ça peut faire du bien. Puis jouer de la musique un peu. Puis faire l'editing photo.
Tu joues quel instrument?
La guitare.
Ah.
Ouais. Fait un bon bout, je joue ça, puis c'est toujours plaisant de passer un petit moment seul chez vous à jammer, puis ça change les idées, ça change le mal de place, puis ça fait passer le temps vite.
Tant mieux. C'est le fun d'avoir des petits passe-temps comme ça pour profiter, puis des petits moments de décrochage.
Ouais, ouais. Mais je dirais le big thing, c'est vraiment la photo, là. Souvent, tu sais, puis pour me changer d'idée, moi je suis... Je sais pas à quel point ça rentre dans le cadre du podcast, mais je suis quelqu'un de TDA. Hyperactif. Je sais pas. Ben, c'est un peu
TDA, le... mais avec le H.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai de la misère à comme me focusser sur des choses des fois. Puis j'ai de la misère à slacker off aussi. Tu sais, de vraiment arrêter puis rien faire. Mettons, écouter la TV, j'ai bien de la misère. Là, parce que mon cerveau est tout en train de runner puis de penser à toutes sortes d'affaires. Fait que je te dirais que. Côté photo, c'est magnifique parce qu'il y a toujours une facette que je peux aller chercher. Soit l'exploration terrain, je regarde des cartes, je fais des cartes à QGIS, l'indice de qualité de l'habitat, je sais pas, du lièvre pour trouver des lynx, des affaires de même. Fait que j'arrête jamais au final de faire ça. Puis quand je fais pas ça, ben, je regarde mes photos du passé, puis je fais un tri photo, puis là j'édite des photos, puis là je me fais. T'sais, fait que ça arrête
tout
pas.
Le temps de la photo.
Ouais. Fait que je suis quelqu'un d'assez. Pas capable de slacker vraiment. Là.
Jamais de pause.
Non, jamais de pause.
Question plus personnelle.
Ouais.
C'est quoi ton animal préféré? Si c'est une plante, ça peut être une plante.
Ben, j'en ai pas un animal préféré, malheureusement. Ben, heureusement puis malheureusement. si on y va avec les gros animaux charismatiques que les gens aiment, mettons les mammifères, là, j'aurais tendance à dire le coyote ou le loup. C'est peut-être un classique.
Donc, reste dans les canidés.
Ouais, avec ouais.
Le nord, là, c'est un autre.
Mais tu sais, ils me fascinent beaucoup, ces animaux-là, parce que. Sont très résilients, puis comme j'ai dit tantôt, c'est des animaux qui sont des chasseurs actifs, fait que toute leur journée, ou presque, ils trottent pour essayer de tomber sur des proies, puis ça veut pas dire que tu tombes sur une proie que tu as catch. Fait que tu sais, puis je trouve qu'ils sont très résilients, surtout le coyote, là, je veux dire, on connaît un peu l'histoire du coyote, là, je ferai pas un détail là-dessus, mais il a monté des États-Unis des déserts pour s'établir là, jusqu'en Amérique du Nord où qu'on est. Puis il fait face à toutes sortes de défis en lien avec l'industrie, l'industrie, on va dire l'activité humaine. Il y a beaucoup de défis avec l'activité humaine. Là, puis je trouve que, juste dans le Bas-Saint-Laurent, les populations de coyotes vont super bien, là, même trop bien, j'ai tendance à dire. fait que cet animal-là, il va toujours me fasciner, je pense. Puis les canidés de manière générale. C'est sûr que j'aimerais ça voir un loup une fois dans ma vie pour de vrai, là, le voir, puis faire des photos ultimement. Là,
c'est fou de se dire que c'est quasiment une métaphore qu'on peut faire avec nos vies, mais ils avancent comme dans le vide,
ouais,
sans savoir trop où ils vont, mais ils finissent par trouver leur voie. Oui,
ben c'est ça. Je devrais prendre plus d'exemple sur le coyote, parce que des fois, je pense après la maîtrise, c'est que je fais, je fais un doc, non, je suis pas prêt, je fais quoi sinon, tu sais. Puis je devrais faire comme le coyote, juste à chaque jour
juste
le jour.
Foncer, puis.
Foncer, puis au jour le jour.
Tu verras rendu là.
Ouais, mais c'est bon que tu dises ça, j'avais pas pensé ça de moi. Je pense que je vais m'en souvenir.
La métaphore du coyote.
Ouais.
Fait que c'est beau tout ça. Mm-hmm. On a fait un beau résumé, un bel ensemble de tout ça.
Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi, puis de jaser de ça aujourd'hui. Là. C'est toujours plaisant. C'est sûr, quand on parle de mon projet, là, puis des animaux, là, on pourrait en parler pendant des heures. Tu sais.
Deux biologistes qui se parlent, c'est...
Ben, c'est ça. C'est ça que ça donne.
Mais merci à toi.
Merci à toi. C'était vraiment intéressant. C'est toute une expérience. Merci.
Un super projet.
Mm-hmm.
Puis une bonne chance pour la suite.
Merci. Toi aussi.
Bonne journée à tout le monde.
Salut.
Pour plus d'informations sur le podcast, je vous invite à visiter la page Instagram du balado qui est @nebulosa_podcast. Et pour voir les photos de Louis-Pierre, c'est au @lpo.photographie. C'est vraiment des très belles photos, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Thank you.